Sur votre radio locale, une chronique pour comprendre l'économie avec Max.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil, à Créteil.
Bonjour Max.
Bonjour Laura, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Aujourd'hui, tu nous expliques comment se forment les prix. Alors, on parle de la loi de l'offre et de la demande. Est-ce qu'elle est pertinente ?
Cette loi semble aller de soi. Si la récolte des fraises est surabondante en pleine saison, le prix de la barquette tend à baisser. À l'inverse, si à Paris les logements sont rares, le prix du loyer va augmenter.
Mais est-ce que cette situation est valable sur tous les marchés ?
Eh bien, les économistes font leurs analyses sur un modèle de marché parfaitement concurrentiel. Il repose sur des hypothèses. Elles sont quatre. L'atomicité du marché. C'est un peu complexe, mais ça veut dire une multitude d'offres et de demandeurs. Aucun ne peut agir sur les prix. Ils subissent le prix, en fait. L'homogénéité des produits, par exemple, il n'y a pas d'effet de marque. Tous les produits sont interchangeables. Troisièmement, la libre entrée sur le marché. En cas de profit, de nombreux offreurs peuvent se présenter sur le marché. Et la concurrence se rétablit donc. La transparence du marché, l'information est parfaite et gratuite. Or, on sait très bien, la réalité s'éloigne de ces hypothèses.
Est-ce que tu peux nous donner quelques marchés réels ?
Voilà. Alors, prenons l'exemple de la demande. On va prendre Marcel. Il dispose d'un certain revenu et décide d'acheter un bien. Sa demande sera fonction du prix. Sa demande décroît si le prix augmente. Mais s'il pense que le prix va encore augmenter, il peut en acheter plus tout de suite, en espérant le revendre plus cher. On peut prendre ce raisonnement pour la bourse, par exemple.
Alors, qu'a-t-il fait ?
Il a anticipé, c'est-à-dire qu'il a prévu une augmentation des prix. Maintenant, si Marcel est pauvre, et que le pain est son aliment de base, et que le prix du pain augmente, il va en acheter davantage.
Pourquoi ?
Parce qu'il reste moins cher que les autres produits qu'il ne peut plus acheter. Pour prendre un exemple concret, c'est le cas de la Révolution française. Le prix du pain a augmenté, les gens ne pouvaient plus racheter rien d'autre, ça a été une crise profonde.
Alors comment on peut conclure ça ?
Cette loi ne fonctionne que si les goûts et les revenus sont donnés et en faisant abstraction des anticipations, des incertitudes et d'exclure certains biens dans certaines circonstances. Donc c'est très compliqué.
Un autre exemple ?
Prenons l'exemple de l'offre. L'actualité nous incite à parler des agriculteurs. La quantité qu'ils vont offrir dépend du coût de production et des prix de vente. Son coût varie en fonction des ressources utilisées. Les graines, les engrais, le fioul, les pesticides, etc. C'est la main d'œuvre. Et évidemment, de ses rendements. Les tonnes à l'hectare. Ou alors des innovations techniques et organisationnelles. Par exemple, les grandes étables où il peut concentrer davantage d'animaux. À court terme, il faut penser que ces données sont fixes. Mais elles sont soumises à des aléas climatiques. Alors comment se fait la fixation des prix ? Il y a des marchés internationaux qui sont spéculatifs, comme pour le blé. Et au niveau national, cela se fait avec les industries agroalimentaires et les distributeurs, les centrales d'achat par exemple.
Donc ?
C'est une question de rapport de force. Les agriculteurs peuvent se regrouper en coopératives, sinon ils seront en situation d'infériorité. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas toujours stocker leur production. Pour prendre un exemple concret, ils peuvent dire à leurs vaches « arrête de donner du lait, le prix du lait s'effondre ». Les vaches ont un cycle, donc elles ont donné un petit veau, elles doivent donner du lait pendant 3 ou 4 mois, ou plus.
Et comment ça se passe à long terme ?
Les cycles de production des agriculteurs sont au moins d'un an, puisque lorsqu'ils sèment, ils sèment pour l'année d'après. Ils sèment le blé en ce moment, par exemple, pour récolter l'année prochaine. Donc ils ne peuvent pas se dire, tiens, cet hiver, le prix du blé baisse, change. C'est semé, c'est tout. Donc ils sont contraints. Ensuite, ils ont des cycles. Les animaux ont des cycles. Les vaches, elles portent 9 mois. Donc elles ont un cycle. Donc elles peuvent pas, on ne peut pas faire du lait comme on veut, on ne peut pas faire des veaux comme on veut. Il y a des cycles qui sont quelquefois longs, ce qui les contraint.
Alors que faire ?
Une organisation plus efficace des agriculteurs vis-à-vis des acheteurs. C'est la fameuse loi Egalim. Des incitations étatiques, par exemple, des subventions pour une agriculture plus durable, en rémunérant par exemple les agriculteurs qui planteraient des haies, etc. Et donc en leur donnant une prime de captation de CO2, par exemple.
Très bien, merci Max pour ton éclairage. Et puis je crois qu'on parlera des agriculteurs un petit peu plus tard.
Voilà, ouais, c'est un programme important. Bonne journée.
Pour plus de chroniques éco avec Max, rendez-vous sur le www.radiopfm.com.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. à Créteil.